Bertrand Matteau, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment avez-vous été amené à écrire sur Fort Bayard ?
Eh bien, j'ai été amené à m'intéresser à l'histoire de Fort Bayard, au départ, simplement en trouvant par hasard des cartes postales, des images, des photos très drôles d'une cathédrale, d'une église, d'un palais colonial, des maisons en ruine dans le style colonial, sur des cartes postales, et sur ces cartes postales était marqué Fort Bayard. Je trouve ça bizarre, Fort Bayard en Chine. Quel est le rapport entre Bayard, pour moi c'était le chevalier de la Renaissance, et puis la Chine, je ne voyais pas le rapport. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé cette enquête, la toile Internet n'existait pas, donc je suis simplement regardé dans des dictionnaires ou dans des vieux livres, et je suis tombé sur Fort Bayard. Fort Bayard, une ville coloniale française en Chine du Sud. Et très vite, très très vite, je me suis rendu compte que donc les Français avaient imité les Portugais, les Français avaient imité les Anglais. Les Anglais avaient fondé Hong Kong. Les Portugais avaient fondé Macao. Et bien, à côté, dans la même région, les Français ont créé ex nihilo, ont créé de toutes pièces une ville, une cité coloniale qu'ils ont baptisée Fort Bayard, qui était donc le fameux nom du chevalier de la Renaissance.
Alors du coup, ces cartes postales vous ont emmené vers un fabuleux voyage en Chine. Mais qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce terrible échec français au point de lui consacrer un livre à ce qui aurait pu être le Hong Kong français ?
Eh bien oui, effectivement, c'est la question fondamentale. Parce que justement, Fort Bayard aboutit à... Fort Bayard est un échec. Fort Bayard est une impasse. Et je me suis... est un échec économique, politique. Au départ, c'était même simplement la connotation, le mot Fort Bayard. Encore une fois, de découvrir qu'il y avait une architecture extraordinaire, qui existe toujours. Maintenant, Fort Bayard s'appelle Zhangyang. C'est une ville ultra moderne d'environ, je crois, 10 millions d'habitants. C'est un port militaire important. Mais il existe toujours, dans cette ville moderne, un quartier français extraordinaire avec une église gothique, un palais de gouverneur avec un charme fou, un vieux phare breton. Voilà, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est formidable, personne ne connaît, tout le monde connaît, on connaît le vieux Hong Kong, on connaît le vieux Hanoï, on connaît la plupart des villes coloniales sont connues, mais là, Fort Bayard, personne ne connaissait. Voilà, c'est cette ville engloutie, bizarre, mystérieuse. Et j'avais voulu absolument faire renaître c'est l'histoire de cette ville.
Alors, vous avez évoqué le chevalier Bayard tout à l'heure, mais en fait, c'est plutôt le nom d'un bateau qu'a pris cette ville.
Oui, absolument. En fait, la marine française, alors c'est en 1899, a décidé donc de fonder une ville coloniale donc entre Canton et l'ancienne Indochine. Il y avait un cuirassier de la marine française, un cuirassier très important qui s'appelait le Bayard. Et quand les Français ont construit leur première caserne militaire sur place, ils ont été au cours d'une attaque par les forces chinoises locales sur leur place forte, ils ont décidé de baptiser ce premier camp militaire en 1898 Fort Bayard.
Alors, comment avez-vous travaillé pour écrire ce livre, le seul aujourd'hui sur le sujet en français ?
Eh bien, au départ, absolument sans méthode. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder les ouvrages sur l'Indochine, les ouvrages sur les colonies françaises, où il y avait parfois, alors évidemment, les colonies françaises tout le monde, l'Indochine, mais il y avait un petit point rose, souvent sur les cartes d'Indochine, un petit point rose en Chine, où il y avait marqué Fort Bayard ou territoire de Kangchewan. Et je me suis dit, ça c'est très, très curieux, qu'est-ce que c'est ce petit point rouge sur ces cartes anciennes qui s'appellent Fort Bayard ou territoire de Kangchewan. Et donc j'ai commencé à explorer, j'ai été aux missions étrangères de Paris, qui se trouvent donc rue du Bac à Paris, et qui ont des archives extraordinaires, notamment des photos prises par les missionnaires en Chine, et qui avaient pris, notamment ces missionnaires ont pris des photos extraordinaires de cette ville, Fort Bayard, des alentours. Avait conservé ces premiers missionnaires avaient conservé, avaient beaucoup écrit justement sur cette ville.
Avez-vous rencontré des descendants de gens qui avaient vécu à Fort Bayard?
Oui, alors c'est ça, c'est aussi l'intérêt d'un livre, c'est aussi mon objectif. Grâce en écrivant ce livre, des familles ont trouvé ce livre en librairie et donc ont réussi à me joindre par mon éditeur, et plusieurs familles avaient conservé pieusement des photos, des témoignages de leurs ancêtres. Et notamment, alors le plus amusant, le plus pittoresque, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait la garde indigène. La garde indigène, c'était simplement la police française coloniale qui contrôlait ce territoire et cette ville, qui faisait la police. Et donc il y avait donc certains officiers avaient bien sûr écrit leur mémoire. Souvent à compte d'auteur, avaient pris des photos, aussi bien dans les années 1910, les années 1920, les années 1930, jusqu'aux années 1940. Et donc, ces descendants m'ont confié parfois des archives extraordinaires.
Alors, vous dites que ce fut une terre de fantasmes pour écrivains et aventuriers, mais qui rêva vraiment de Fort Bayard?
Alors, effectivement, c'est que vous m'aviez demandé tout à l'heure comment j'avais pu mener cette enquête. Parce qu'effectivement, aussi très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre d'écrivains, ce qu'on appelait autrefois des écrivains voyageurs, des romanciers qui écrivaient ce qu'on appelait des romans coloniaux. Et donc, un certain nombre d'écrivains voyageurs avaient écrit sur ce territoire de Kangchewan, ont écrit sur Fort Bayard. Ils faisaient souvent escale, des écrivains voyageurs faisaient escale entre l'Indochine et Hong Kong, entre l'Indochine et Canton, notamment sur les paquebots des messageries maritimes. Et donc, on a apporté des témoignages très, très pittoresques sur cette drôle de ville.
Alors, il faut remonter à 1701 et l'Amphitrite pour que les Français découvrent la baie de ce qui deviendra Fort Bayard.
Alors oui, ça c'est très amusant. Louis XIV, au XVIIe siècle, a envoyé une frégate qui s'appelait l'Amphitrite. Il existe un témoignage, d'ailleurs le capitaine de ce navire avait écrit ses mémoires, et par hasard donc aurait, au cours d'une tempête, découvert une baie inconnue qu'il a surnommée la baie de Canton, c'est-à-dire Kangchewan, paraît-il en vieux cantonais. Et là où c'est très, très amusant, c'est que les Français donc auraient découvert cette baie mystérieuse, et les cartes de cette baie auraient disparu dans les archives de la Marine nationale française et ne seraient réapparues. La marine les aurait redécouvertes qu'à la fin du 19e siècle.
Ben ça tombait bien, ça leur a servi à ce moment-là. Alors faire l'histoire de Fort Bayard, finalement, c'est aussi faire celle de l'Indochine au sens large.
Oui, absolument. Bien sûr, on ne peut pas dissocier l'histoire de l'Indochine et l'histoire de Fort Bayard. En fait, les Français On colonisait, donc comme vous le savez, une partie de l'Asie, on colonisait donc ce qui est maintenant le Vietnam ou le Cambodge, mais ils avaient aussi donc décidé de ce qu'on appelait d'avoir des concessions en Chine, juste à côté. Alors, tout le monde connaît la concession de Shanghai, la concession internationale de Shanghai où les Français étaient installés. Il y avait aussi à Canton une concession française importante. Mais les Français ont décidé de créer, donc d'obtenir officiellement par la Chine ce qu'on appelait autrefois donc un territoire à bail. Un territoire à bail, c'est-à-dire que la Chine offrait pour 99 ans, donnait pour 99 ans, un territoire à la France, exactement à la manière de Hong Kong. Mais ce territoire à bail, officiellement, juridiquement, n'est pas une colonie. Hein, ça, et c'est donc c'est toute là aussi tout ce qui effectivement là, ce sera une polémique qui va durer jusqu'à la fin de cette aventure, car jusqu'à la fin de cette aventure, les Français, le pouvoir français, le gouvernement français refusaient de parler de colonie. On ne parlait pas de colonie, il ne s'agissait pas d'une colonie au sens propre, comme en Indochine.
Alors, il n'y a pas eu de grande bataille de conquête, mais finalement, quand même, l'occupation française ne fut pas un long fleuve tranquille parce que les Chinois résistèrent, plus ou moins.
Oui, absolument. En réalité, aussi, l'empereur de Chine, à la fin du XIXe siècle, a donc donné un territoire à bail à la France, mais immédiatement, le pouvoir local, c'est-à-dire ce qu'on appelait le vice-roi de Canton, notamment, ou les sous-préfets de la région autour de Canton, immédiatement, le pouvoir local s'est révolté et ne voulait pas que les Français s'installent. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la politique de la canonnière, c'est-à-dire la marine française, par la force, ont pris ce territoire par la force.
Alors finalement, qui gouvernait la Chine? Ce serait bon de le rappeler quand les Français débarquent à Quang-Chi-Wan, qui était alors un village de pêcheurs et qui intéressait pas grand monde.
Absolument. Eh bien, à l'époque, la Chine était dirigée par une impératrice, l'impératrice douairière. Le pouvoir était en pleine déliquescence et très vite, en réalité, les pouvoirs locaux avaient pris le pouvoir sur l'empire. Et les seigneurs de guerre, en fait, contrôlaient toutes ces régions. Et notamment là, puisque là, nous sommes vraiment au sud de la Chine, et le sud de la Chine était surtout un territoire infesté, comme on disait, de pirates. C'était vraiment l'île, c'était vraiment un pays infesté. Il n'y avait que des pirates. C'était des pirates qui faisaient des trafics en tout genre, qui contrôlait cette région.
Il est sûr que ça fait un petit peu rêver cette histoire de pirates, c'est quand même juste un grand siècle, c'est pas si lointain. Mais pourquoi les Français étaient-ils si intéressés à s'installer dans ce minuscule port de pêche? Quelles étaient en fait les grandes envies géopolitiques et commerciales?
Alors, c'est là où effectivement c'est très bizarre, c'est très curieux, c'est très mystérieux. Bien sûr, j'ai lu tous les textes officiels. Et effectivement, en fait, il n'y avait aucune raison que les Français, aucune raison, comment dire, économique, pratique, pragmatique, que les Français s'installent là, sur place. En réalité, c'était juste pour concurrencer les Anglais. Nous sommes à l'époque donc des grandes concurrences, comme on peut appeler ça, la grande concurrence des coloniales. Et donc c'était surtout uniquement pour embêter les Anglais. Les Français et Anglais se détestaient. Les Anglais avaient Hong Kong, s'étaient enrichis. Nous, il nous fallait un port comme Hong Kong. Nous voulions rivaliser comme Hong Kong. Et puis, très vite, alors c'est ça où c'est intéressant, c'est que les Français se disent, notamment le gouverneur général de l'Indochine, se dit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire de cette ville, qu'est-ce qu'on peut faire de ce territoire? Eh bien, on pourrait peut-être, en fait, quelle était l'économie principale de cette ville? C'est le trafic d'opium. Il faut concurrencer Hong Kong, il faut concurrencer Macao sur le trafic d'opium. Et donc tout est et qui effectivement a eu de très beaux jours, de très beaux jours. Enfin, ça c'est très bien. Ça, comme en fait, c'est le trafic d'opium qui a fait la prospérité de Fort Bayard.
Donc un trafic d'opium d'État, est-ce que ce ne serait pas la raison pour laquelle il y a eu un petit peu une omerta sur l'histoire de ce petit bout de France en Chine dont personne ne parle? Est-ce que ce ne serait pas l'opium?
Si, absolument. Au fond, si cette drôle de cité a été totalement occultée, oubliée, c'est parce que Fort Bayard a été le centre maritime et terrestre du trafic d'opium en Asie jusqu'en Amérique du Nord. Voilà, c'est un peu ce que j'ai découvert de manière très drôle à travers les archives, petit à petit, au fond, Fort Bayard était un endroit tellement discret qu'il a permis aux Français, mais aussi aux Anglais et aux trafiquants chinois eux-mêmes, de faire un trafic entre bien sûr l'Asie, l'Europe et même jusqu'en Amérique.
Mais quand on parle d'opium en Chine, les triades ne sont jamais loin. Est-ce que ça veut dire que l'État français avait des relations avec les triades?
Oui, absolument. Et là aussi, c'est formidable parce que j'ai trouvé des tas d'archives là-dessus. Ces fameuses triades, les Français les dénomment des pirates, la piraterie, des grandes figures pittoresques de pirates chinois. Notamment aussi, il y avait des piratesses femmes. Il existait aussi, la plupart d'ailleurs des grands pirates chinois étaient souvent des femmes parce elles savaient très bien une très haute idée pour calculer les caisses d'opium. Beaucoup de femmes étaient très fortes en arithmétique, n'est-ce pas? Ça, c'est une discrétion. Et effectivement, les Français, comme les Anglais ou comme les Portugais, étaient s'alliés avec les potentats locaux, les triades, les pirates, pour alimenter ce fameux trafic d'opium.
Quel rôle joua alors dans les années 20 la Banque d'Indochine, devenue plus tard une filiale du Crédit Agricole en 1996? Banque d'Indochine, opium, est-ce qu'il y a eu des relations?
Oui, alors là, effectivement, là, c'est formidable. La Banque d'Indochine, qui était l'une des banques les plus puissantes de France dans les années 30, a joué un rôle considérable. La Banque d'Indochine, il existe les archives de la Banque d'Indochine, et là, c'est un vrai régal, car effectivement, on découvre comment la Banque d'Indochine, donc, était un véritable état dans l'état, a créé une agence bancaire sur place à Fort Bayard en 1925, en plein dans les années folles, et effectivement a créé a offert des licences offrait des licences à des potentats chinois et aussi mais également à des coloniaux français pour exploiter l'opium. Alors, l'idée est assez simple. Au fond, sur place, il n'y a pas d'opium. Il faut effectivement en parler. Comme vous le savez, l'opium vient de la fleur de pavot. La fleur de pavot était surtout cultivée au nord de la Chine, ou principalement, ou disons plutôt au nord de l'Indochine, dans le Yunnan. Ou en Inde. En fait, ce qu'on appelait l'opium, la fleur de pavot, donc encore une fois, venait plutôt du Yunnan en Indochine, ou au nord de la Chine, ou en Inde. Mais cet opium, cette fleur de pavot, bien sûr, devait être, comment dire,
Transformé.
transformé, merci, devait être transformé en ce qu'on appelle opium brut, en opium raffiné. Et c'est là où effectivement on a créé dans ce qu'on appelait des petites usines, des fabriques, qu'on appelait des bouilleries d'opium. Et donc Fort Bayard avait sur place créé des bouilleries d'opium. Il y en avait au moins sans doute une centaine à l'âge d'or de Fort Bayard. Et donc où l'on transformait l'opium brut en opium raffiné, ou ce qu'on appelait l'opium à fumer. Et de là, donc sur le port de Fort Bayard, des bateaux partaient soit à Hong Kong, soit remontaient à Shanghai, partaient même jusque dans le Pacifique allait même jusqu'au Japon, ou alors faisait la route, la fameuse route, ce qu'on appelle aussi la route, passée par l'Indochine, par Hanoï, passer par l'Afrique et remonter jusqu'à Djibouti et jusqu'à Marseille.
C'était un peu de la piraterie d'État, comme avait fait la reine Élisabeth d'Angleterre avec les pirates anglais.
Absolument. Et les Français, l'État français, le gouvernement français, le gouvernement général de l'Indochine étaient obsédés par cette concurrence des Anglais, de la perfide Albion, et effectivement voulaient concurrencer le commerce de l'opium international.
Les Portugais aussi.
Absolument. Absolument. Et les Portugais ont joué un rôle considérable, mais les Anglais écrasés. Étaient vraiment, jusqu'à la fin, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Anglais étaient vraiment. Le trafic d'opium des Anglais était le plus important, mais les Français se sont bien débrouillés.
Bien, ce que je vois, effectivement. On pourrait peut-être aussi évoquer quelques personnalités marquantes, comme par exemple le consul Auguste François.
Oui, alors effectivement, Auguste François était un consul formidable qui se déguisait en mandarin, mais il n'était pas dans cette région. Mais effectivement, il a joué un rôle. Il a influencé beaucoup de consuls, d'administrateurs, et beaucoup de consuls, d'administrateurs ont imité son style à Fort Bayard justement. Ont eu la folie des grandeurs et se sont mis à parfois s'habiller à la chinoise, se prenaient pour des mandarins. Était porté par des chaises à porteurs, avoir une police locale, ce qu'on appelait la garde indigène, et avait une garde prétorienne, une garde personnelle de 200-300 soldats, et se promenait en chaise à porteurs dans les rues de Fort Bayard.
Et ces soldats étaient chinois.
Alors, c'est très intéressant, car au fond, la police française coloniale, ce qu'on appelle donc la garde indigène, n'était pas chinoise. Au fond, les Chinois étaient toujours en révolte et résistaient à l'Empire français. Et donc, les Français utilisaient des Indochinois. La garde, ce qu'on appelle donc la garde indochinoise de Fort Bayard, était en fait composée surtout d'Indochinois, de Vietnamiens. Et donc, il existait une communauté vietnamienne importante sur place. Et alors, cette fameuse garde indigène reste importante, amusante, parce qu'il y avait un uniforme original, local. Il existe d'ailleurs des photos qu'on peut trouver au musée de la Marine, n'est-ce pas, où cette garde indigène portait une chemise avec un panneau où il y avait marqué en chinois « Soldat hôte de la France ».
C'est subtil.
Voilà, c'est très. Voilà, soldat hôte. Il était marqué en caractère chinois, en gros, soldat hôte de la France. Et donc, c'était très pittoresque et ça permettait. Donc, il y avait donc beaucoup de. On distribuait beaucoup de cartes postales où l'on montrait cette fameuse garde indigène.
Ça n'a pas dû aider au bon rapport entre le Vietnam et la Chine du Sud. Est-ce qu'on trouve encore des traces de l'héritage de la présence française ?
Oui, absolument. Et là effectivement, donc, c'est la légende de cette cité française disparue a réapparu il n'y a pas très longtemps, il y a environ depuis que la Chine c'est comment dit-on que la Chine
c'est démocratique, c'est ouverte, hein.
c'est ouverte notamment. Exemple le plus frappant, c'est cette fameuse cathédrale. Il existe donc à Fort Bayard une cathédrale construite par les missionnaires en 1901, une superbe église gothique. Et quand les communistes ont libéré la Chine, ont libéré donc en 1949 également la Chine du Sud et donc Fort Bayard, ils n'ont pas rasé le quartier colonial français de Fort Bayard, et ils ont laissé notamment cette église et ce palais, également le palais de gouverneur. Mais au fil du temps, cette église a été transformée notamment en entrepôt, même en usine, je crois. Et puis, en 1984, le gouvernement, la mairie, a décidé de rénover l'église et l'a réouverte même au culte catholique.
Alors finalement, il n'y avait pas beaucoup de différence entre la vie à Fort Bayard que menaient les Français et celle à Saïgon ou à Hanoï.
Alors non, il n'y avait aucune différence, mais pour quand les colons français, quand l'administration française, femmes et enfants compris, débarquaient à Fort Bayard, c'était l'enfer. C'était vraiment aucun militaire, aucun commerçant ne voulait aller à Fort Bayard. On ne rêvait que de rester à Saigon, que de rester à Hanoï, où il y avait une certaine vie culturelle. Non, non, là vraiment, c'était considéré comme une prison. Et donc, on envoyait sur place les pires Français. C'était vraiment un bannissement pour débarquer à Fort Bayard. C'était absolument terrifiant. C'était un bannissement. On envoyait les plus mauvais des Français.
Oui, parce qu'en fait, c'était un territoire finalement très violent. Alors, au chapitre des nombreuses personnalités qui sont passées à Fort Bayard, il y a aussi des fascistes comme Doriot et Agelbert.
Oui, absolument. Et alors ça, c'est assez fabuleux, c'est que Doriot, on le sait pas, Doriot donc est connu pour avoir été un des grands collaborateurs en France sous l'occupation. Mais avant d'être un grand collaborateur, il était le numéro 2 du Parti communiste français dans les années 30 et s'intéressait beaucoup à la Chine. Doriot avait été voir Staline lui-même. Et Staline lui avait dit, bon voilà, les communistes, il faut installer une base communiste en Chine et vous allez vous en occuper. Et donc Doriot a fait tout un voyage en Chine pour lancer la révolution communiste internationale. Et Doriot a été jusqu'en Chine du Sud et a écrit des papiers, a fait des tracts jusqu'à Fort Bayard. Où sur place, les premiers communistes chinois et les premiers communistes vietnamiens ont tenté de fomenter des révoltes à Fort Bayard ou aux alentours.
Et tout ça avec la bienveillance de Doriot.
Tout ça avec la bienveillance de Doriot, qui était député en région parisienne.
Finalement, il aurait pu rencontrer Mao. Alors, Malraux aussi est passé à Fort Bayard ou pas?
Alors non, Mao n'est pas...
Non, pas Mao, Malraux.
Mao n'est pas passé à Fort Bayard, mais c'est le ministre des Affaires étrangères de Mao.
Chou En-lai
est passé à Fort Bayard. Et donc, je fais une parenthèse, mais c'est très drôle. Chou En-lai, donc le premier, je crois que c'était au fond le numéro 2 du régime, le numéro 2 le premier ministre de Mao, est passé à Fort Bayard et a dit, comme Chou En-lai était venu à Paris, Chou En-lai était venu en France dans les années folles, dans les années 30, je crois, eh bien, il a tout de suite reconnu l'architecture française, parisienne, et Chou En-lai a fait l'éloge de cette ville française en disant qu'il avait de très bons souvenirs à Paris. Alors, et vous me posez maintenant cette question sur Malraux. Non, Malraux n'est pas passé, hélas, à Fort Bayard, mais il est passé sans doute en bateau, par les messageries maritimes, il est sans doute passé devant le front de mer, c'est certain.
Mais il n'a pas débarqué. Quel impact a eu sur Fort Bayard la guerre de 1937 avec le Japon?
Alors, c'est là où ça devient effectivement, où c'est passionnant, c'est que voilà, le Japon envahit la Chine en 1937, le Japon... avance, les armées japonaises avancent en Chine. Comme vous le savez, les Japonais vont envahir Hong Kong en 1941. Et là où c'est formidable, c'est qu'effectivement, à partir du moment où Hong Kong devient japonais, eh bien, le port de Fort Bayard, lui qui était tellement discret au fond, qui avait conservé une telle discrétion, va connaître un âge d'or, un âge extraordinaire, et va donc devenir la plaque tournante du commerce du sud de la Chine, va connaître, sera un refuge pour tous les déshérités de la Terre, aussi bien les réfugiés communistes, les réfugiés nationalistes, et même les résistants français, les gaullistes français pourront trouver une certaine sécurité à Fort Bayard, puisque Hong Kong a été envahi par les Japonais.
D'autant plus que la France avait soutenu Chiang Kai-shek.
Oui, absolument. Les Français avaient soutenu les nationalistes. D'ailleurs, les nationalistes. Et donc, effectivement, d'ailleurs, je crois même qu'il y avait même des cousins ou enfin, de la famille de Chiang Kai-shek qui vivaient à Fort Bayard.
Mais alors, comment toute cette histoire française en Chine s'est-elle terminée?
Eh bien, alors là aussi où c'est très amusant et très mystérieux, c'est que donc les Japonais ont envahi la Chine, ils ont envahi Hong Kong, et puis finalement ils décident tout de même, alors comme les Japonais, ce qu'on appelait le coup de force en 1945, ce qu'on appelait le coup de force des Japonais, envahissent l'Indochine. Quand les Japonais commençaient à perdre la guerre, ils ont décidé par un coup de force, encore une fois, d'envahir l'Indochine et donc le sud de la Chine. Et comme vous le savez, quand les Japonais ont envahi l'Indochine, ce fut effroyable. Ils ont massacré les Français. Les militaires français étaient emprisonnés dans des cages. Ils ont massacré des régiments entiers, des armées entières, les femmes et enfants aussi étaient massacrés. Et chose curieuse, très amusante au fond, c'est, n'est-ce pas, quand une armée japonaise a débarqué à Fort Bayard, eh bien, ils n'ont pas massacré la trentaine de Français qui étaient toujours sur place. Ils ont désarmé cette pauvre garde indigène qui possédait des fusils qui dataient de la Première Guerre mondiale. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi finalement les Japonais ont laissé un semblant d'administration française sur place. La raison est simple. Le fameux trafic d'opium. Les Japonais, comme les Chinois, comme les Français, avaient trop besoin d'argent et se sont dit, au fond, sur place, il y a toute une installation sur le trafic d'opium, laissons faire les choses. Et ce trafic d'opium permettait naturellement de financer l'effort de guerre.
Restons sur le trafic d'opium, puisque ce sont les partisans de Chiang Kai-shek qui ont repris à leur compte nos réseaux de trafic de l'opium pour financer la lutte contre Mao.
Oui, absolument. Là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand De Gaulle arrive au pouvoir, enfin avec son gouvernement provisoire en 1945, immédiatement il rétrocède donc le territoire de Kangchouan, Fort Bayard, au gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek. Mais Chiang Kai-shek et au fond ses généraux corrompus continuent plus que jamais le trafic d'opium. Et la Banque d'Indochine continue à exister. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai découvert que secrètement, la Banque d'Indochine, petit à petit, essayait de récupérer l'or, ou l'argent, mais surtout l'or, du trafic d'opium qui était encore conservé dans les caves, dans les coffres-forts de la Banque d'Indochine.
C'est un vrai roman d'espionnage. Et à propos de Banque d'Indochine, on retrouve de manière inattendue le nom de Bousquet. J'ai vu ça dans votre livre dans les années 50.
Absolument, absolument. Bousquet, comme on ne le sait peut-être pas, donc il fut le terrifiant initiateur de la Ralph du Veldiv à Paris, a retrouvé la Banque d'Indochine, lui a offert un nouveau métier, un travail. Comment on dit ça, comment on peut dire ça, il s'est...
Comme
administrateur. Et il est devenu administrateur notamment en Indochine. Et le travail de René Bousquet a été au fond de récupérer de récupérer l'or, l'argent, enfin toutes les, tout le, tous les oui, l'or, comment on appelle ça, l'argent des banques, de la banque d'Indochine qui se trouvait dans les différentes agences en Asie du Sud-Est, en Indochine.
Et il y est arrivé.
Et il est, oui, je pense que la banque d'Indochine a récupéré son or, l'or de l'opium.
Et voilà, et en 1945, 1950, tout ça, c'était une histoire finie. Eh bien, Bertrand Matos, merci.